Bonjour Najat Vallaud-Belkacem.
Bonjour.
Manuel Valls a précisé hier où se feraient les 50 milliards d'euros d'économies sur les trois prochaines années. 18 milliards d'euros pour l'État, 11 milliards pour les collectivités locales, 10 milliards pour l'assurance maladie et 11 milliards pour les prestations sociales. Gel du point d'indice des fonctionnaires jusqu'en 2017, retraite non revalorisée en octobre 2014, mais a priori un an plus tard. Pas de revalorisation des prestations sociales jusqu'en 2015. Comment peut-on qualifier ces mesures? Le débat continue sur le point de savoir s'il s'agit d'austérité ou pas. Vous assumez-vous la part d'austérité de ces décisions?
Nous assumons le chemin de redressement qui est le nôtre, qui d'ailleurs a été engagé par ce gouvernement déjà depuis 2 ans et que nous continuons et que nous amplifions parce que notre pays en a besoin. Notre pays a besoin de renouer avec la croissance, a besoin de donner les marges de manœuvre aux entreprises pour qu'elles embauchent, pour qu'elles investissent, pour qu'elles innovent. Et donc nous avons besoin de faire cet allègement du coût du travail que nous prévoyons dans le pacte de responsabilité. Ça va être 30 milliards d'euros qui seront mis au service des entreprises pour qu'elles puissent davantage fournir de l'emploi. Eh bien, en contrepartie, il fallait bien trouver ces sommes et équilibrer cette dépense. C'est ce qui a été annoncé par le Premier ministre hier. Mais nous le faisons dans un esprit, pardonnez-moi, de justice et de solidarité parce que les efforts, nous les demandons certes collectivement, mais il est prévu de maintenir, par exemple, le pouvoir d'achat des salariés au SMIC, puisque, comme vous le savez, les cotisations salariales, cette fois-ci, vont être allégées à partir du 1er janvier 2015. Donc, ça va représenter quelques 500 euros pour un salarié au SMIC sur un an. Que nous allons faire en sorte, parmi les prestations sociales dont vous avez indiqué que leur revalorisation serait reportée d'un an, d'exonérer en revanche celles qui concernent le minimum vieillesse ou qui concernent le RSA par exemple, les minima sociaux seront eux bel et bien maintenus. Donc il y a quand même des efforts qui sont réalisés pour que les plus modestes d'entre nous ne soient pas lésés par ce redressement indispensable.
De nombreux élus socialistes hier ont exprimé leurs troubles. Est-ce que vous comprenez tout de même que ça leur fasse drôle que la gauche au pouvoir allège les charges des entreprises de 30 milliards d'euros et gèle les prestations sociales?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il ne s'agit pas d'opposer les entreprises et les individus. Encore une fois, pourquoi est-ce que nous allégeons le coût du travail pour les entreprises? Pour leur permettre d'embaucher davantage. Embaucher davantage, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie remettre en emploi des Françaises et des Français, jeunes, moins jeunes, puisqu'on sait que le chômage touche en particulier les plus jeunes et les seniors, et remettre en emploi, donc leur donner du pouvoir d'achat, en quelque sorte, avec un salaire qui tombe à la fin du mois, avec des perspectives, avec la possibilité, enfin, de fonder une famille quand on est jeune. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes mettent de plus en plus de temps et d'années à fonder leur famille parce qu'ils ne trouvent pas de situation stable. Et moi, j'ai rencontré, si vous voulez, ces dernières années, un nombre de jeunes gens qui, à l'âge de 30 ans, n'avaient encore reçu aucune fiche de paie, qui est extrêmement préoccupant. Donc il faut tout mettre en œuvre, tout prioriser sur cette question. Et c'est pour cela que nous donnons, encore une fois, les moyens aux entreprises d'investir. Mais par ailleurs, si vous me permettez, dans ce même plan de redressement, vous aurez noté que l'État, par exemple, préserve ses capacités d'investissement sur l'éducation nationale, sur la justice, sur la sécurité. Donc emploi, éducation, formation, justice, sécurité, ce sont les priorités du président de la République. Il l'avait annoncé en 2012 et ce plan ne fait que les confirmer.
Sur la forme, vous avez été porte-parole du gouvernement. Hier, Manuel Valls a remplacé le nouveau porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, avec 4 ministres de chaque côté quasiment au garde à vous pendant qu'il annonçait les mesures. Et les députés ont appris les décisions en regardant la télévision. C'est le style Valls, ça?
Il y a nécessité, à ce moment précis de notre histoire, de prendre à bras le corps les décisions, de les faire avancer avec une forme, de volontarisme,
de détermination.
Non, de volontarisme, et je pense honnêtement que c'est ce qui est attendu aussi du Premier ministre. En même temps, qui dit volontarisme n'exclut évidemment pas le dialogue et le dialogue avec les parlementaires, il va bel et bien se faire. Et le Premier ministre l'a dit, nous allons revenir devant le Parlement avec les propositions qui ont été faites hier. Et il y aura vraisemblablement des discussions qui permettront d'affiner tel ou tel point. Mais sur les grands principes que j'ai rappelés à l'instant, c'est-à-dire à la fois la nécessité de soutenir nos entreprises, de réduire les impôts, on ne l'a pas évoqué, mais en perspective, oui, et c'est pour cela que nous avons besoin des moyens.
Et dans quelle proportion ?
Écoutez, le Premier ministre a annoncé quand même que dès le mois de juin, des mesures seront prises en faveur des contribuables les plus modestes. Donc il va bien y avoir un effort fait de réduction des impôts, de réduire le déficit public aussi, parce qu'on vit indéniablement au-dessus de nos moyens. Et pourtant, est-ce qu'on vit mieux en France où nos dépenses publiques représentent 57% de notre richesse nationale par rapport à d'autres pays où ça représente beaucoup moins bien? Ça n'est pas une certitude. Donc il nous faut faire des efforts et c'est pour cela que dans ce plan est prévue la rationalisation des dépenses des collectivités locales, de l'État, pour mieux mutualiser, pour être plus efficace au service des Français.
Pourquoi le gouvernement a-t-il finalement renoncé à demander un délai supplémentaire à Bruxelles pour ramener ses déficits sous la barre des 3%, puisque c'était envisagé?
Que les choses vraiment soient claires, parce que j'entends beaucoup cette question, ça n'est pas pour les beaux yeux de Bruxelles que nous faisons les efforts que nous faisons aujourd'hui. Si nous les faisons, c'est parce que nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir le taux d'endettement qui est le nôtre. Il risque d'atteindre quasiment 100% de notre PIB si nous ne faisons rien. Ça représente quelques 30 000 euros par Français de dette à payer. En gros, ça veut dire que tout cela est reporté sur les générations à venir, donc sur nos enfants qui vont se trimballer cette dette quasi individuelle de 30 000 euros par personne. Donc est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt s'arrêter un instant et encore une fois rationaliser nos modes de fonctionnement pour éviter de dépenser plus que nos moyens ne nous le permettent? Et c'est ce que nous faisons au nom de l'assainissement de nos finances publiques, pas au nom de Bruxelles, pour faire en sorte que nous puissions...
On peut négocier l'échéancier parfois.
Quand on a une dette, on peut négocier l'échéancier, certes, mais enfin, en même temps, vous savez, c'est aussi de notre souveraineté qu'il est question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se met simplement dans la main des marchés financiers, on n'aura plus les moyens non plus de faire nos choix de priorité. Je vous parlais d'éducation, de sécurité, de justice tout à l'heure. Si on est incapable de présenter des comptes sains et qu'on est entre la main des marchés financiers, alors on nous imposera des priorités qui ne sont pas les nôtres aussi, parce que les marchés financiers n'auront pas le même intérêt que nous l'avons, nous, à financer, par exemple, l'éducation. Donc, voilà.
Vous avez de nouvelles attributions dans votre portefeuille ministériel, mais vous restez ministre des Droits des Femmes et vous avez lancé hier une plateforme européenne pour l'égalité. C'est une initiative que vous avez prise personnellement. Vous êtes soutenu par un certain nombre de ministres européens et plusieurs prix Nobel de la paix. De quoi va-t-il s'agir? Qu'est-ce que porte ce projet?
Alors c'est très simple. Bientôt, ce sont les élections européennes. Moi, je ne veux pas qu'à l'occasion de ces élections européennes, on ne parle que de projets économiques ou alors qu'on se satisfasse d'une abstention et d'un désintérêt croissant des citoyens européens envers leurs institutions. Moi, je crois beaucoup à l'Union européenne et je pense que l'Union européenne doit être un fer de lance en matière de valeurs et de projets de société. Et que dans ces valeurs et dans ce projet de société, il y a notamment la question des libertés fondamentales et parmi elles, les droits des femmes. Les droits des femmes à pouvoir à la fois être égales professionnellement, accéder aux responsabilités, disposer de leur corps, être autonome. Et ces droits des femmes, j'aimerais que l'Union européenne s'en saisisse et qu'elle crée un socle commun fondamental qu'elle fasse respecter. Et donc, ce texte, cette plateforme que nous avons co-signée avec plusieurs ministres européennes hier et que je vais remettre dans un instant à Martin Schulz, c'est un texte à l'adresse des candidats aux élections européennes pour leur dire « voilà l'Europe dont nous rêvons ». D'abord, une Europe avec des institutions qui soient paritaires. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, alors que la parité, on cherche à l'imposer dans tous nos pays, on la retrouve pas dans la Banque centrale, dans le Collège des commissaires, etc. Donc, une Europe paritaire et puis une Europe qui mette les droits des femmes dans son agenda politique comme une priorité.
Merci Najat Vallaud-Belkacem.
Merci à vous.